Anne Cassidy, qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou-Adrienne Cassidy les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Madame Deval derrière la console en direct des studios de Chiz 94.3. C'est le début du dernier épisode de Chérie, j'arrive de la semaine. Pas mécontente d'être vendredi, pas mécontente d'être derrière le micro en compagnie de ma co-animatrice du jour, Julia Baumert. Bienvenue en onde.
Hey, salut! Moi aussi, je suis contente d'être là. Ça finit bien la semaine.
C'est un plaisir. C'est pas ta première participation en plus, alors nous serons deux petits poissons dans le bocal qui est le studio de Chiz. Excellent effet sonore. Au menu aujourd'hui, on vous parle de l'inframonde, pièce qui a pris affiche au premier acte cette semaine. C'est vers 16h30 que vous entendrez l'entrevue qui concerne cette pièce. Il y a les studios, presque studios, qui ont fait leur lancement la semaine dernière. Émilie Rioux s'est entretenue avec les deux artistes visuels derrière ce projet la semaine dernière. Nous allons vous rediffuser l'entrevue. Et bien entendu, on va vous suggérer quelques sorties culturelles, musicales, festives à faire dans les prochains jours. Et en termes de sorties musicales à faire sous peu, il y a un spectacle à l'Anti, bar et spectacle dont j'aimerais vous parler, et c'est celui de Bonanza. C'est l'un des multiples projets de Dominique Pelletier. Celui-là, c'est vraiment son projet solo à lui. Dominique Pelletier, le nom vous dit peut-être quelque chose parce que vous l'avez déjà entendu jouer dans Caravan, The Hunter, New Bleach notamment. Donc, il y a eu le Quatuor, le groupe à trois, le duo. Et là, c'est le projet solo de Dominique, donc qui s'intitule Bonanza. L'album Prince Limonade, qui, de par son visuel, est magnifique. Les vinyles ont été pressés à la Société des loisirs dans Saint-Sauveur. L'album est paru en octobre. Et il y a le titre, la pièce éponyme Prince Limonade, qui, je trouve, nous met bien dans l'ambiance du vendredi. Je pense que ça va bien ouvrir le bal. Et c'est le 24 mars prochain. C'est la semaine prochaine que vous pourrez voir l'artiste performer à l'Antibar et spectacle. C'est le temps de prendre des billets et aussi de monter le volume de la radio si vous avez envie de faire un peu la grouillade dans votre voiture ou votre domicile. Voici Prince Limonade de Bonanza.
Tu goûtes le miel. Vice,
Prince Limonade, une chanson de Bonanza sur les ondes de Schiste 94.3. L'artiste sera en spectacle le 24 mars prochain. C'est du côté de l'Antibar et spectacle que ça se passe. Puis là, en termes de spectacle, ça se passe. Après un mois de février qui a été bien occupé parce qu'il y avait de multiples festivals qui occupaient nos scènes à Québec, là, je sens qu'il y a un rythme normal, un rythme de croisière qui reprend nos salles d'assaut. Et Julia Baumert, ma co-animatrice du jour, a quand même quelques suggestions pour ce week-end.
Absolument. À l'agenda culturel cette semaine, entre autres aujourd'hui, le lancement de Olivia Coury au Pantoum à 20h ce soir au coût de 20$. On est très excités à propos de ça. Tout ce qui se passe au Pantoum, habituellement, c'est excitant. pour continuer, demain... En fait, non, ce soir, il y aura également Mon doux Seigneur à Lévis avec Jean Do en première partie. Puis là, je vous dis ça parce que avec Jean Do, on a un set de billets à faire tirer pour son spectacle de samedi. Jean Do avec Héron au Pantoum, dans le fond. Fait que Jean Do, ce soir, en première partie de Mon doux Seigneur à Lévis, et puis demain, avec son lancement, dans le fond, à 20h30.
Week-end occupé pour Jean Do, c'est donc deux occasions de le voir. Si c'est pas ce soir, du côté de Lévis, ce sera demain, bien
c'est
à
ça,
Québec, en Basse-Ville.
On a amplement le choix.
Mm-hmm. Et pour ce soir, pour Olivia Coury, c'est le fun parce que le EP est paru il y a deux semaines. En général, les lancements ces temps-ci se font vraiment longtemps après l'apparition de l'album. En tout cas, c'est une certaine tendance que j'observe. On dirait que les artistes veulent roder les shows, laisser aux gens le temps de découvrir les tunes avant de lancer l'album. Mais là, Olivia Coury n'a pas perdu de temps. Le EP Portrait va être lancé ce soir. EP, Julia, qu'on peut prononcer Portraits.
Portraits.
Ouais, il y a trois tunes en français, trois tunes en anglais. Donc, quand j'ai demandé à Olivia Coury en entrevue si c'était un EP francophone ou anglophone, ben, comme elle est bilingue, elle aussi, elle m'a dit qu'on pouvait dire ça comme on voulait. C'était même un choix de titre voulu pour qu'on puisse le prononcer, l'interpréter comme on le souhaitait.
Aller dans le bilinguisme, finalement.
Ouais, voilà. Alors, comme je suis plus à l'aise dans ma langue maternelle, le EP Portrait sera lancé ce soir au Pantoum. Puis, tu parlais de Jean Do pas mal, Julia. Les gens qui aimeraient aller le voir, non pas ce soir, mais demain, samedi, au Pantoum, peuvent communiquer avec moi dès maintenant en studio au 656-2215. J'offre une paire de billets pour le spectacle de Jean Do et de Héron ce samedi au Pantoum. Tout de suite au 88-656-2215. Ce sera d'ailleurs en première partie la première sortie de Héron, qui est l'un des membres du duo Kinked. Alors, on ne sait pas encore à quoi s'attendre musicalement ou vocalement non plus. Là, avec le son de Héron, ce sera tout nouveau. Pour Jean Do, par contre, on sait comment ça sonne. Pour Olivia Coury aussi, voici le titre « Je te laisse » de l'artiste sur nos ondes. c'était Olivia Coury sur nos ondes. Le EP Portrait sera lancé ce soir sur la scène du Pantoum. Et sur la scène du Pantoum, demain, c'est Jean Do qui sera en performance avec Héron. Et Julia, on a un gagnant.
Oui, d'ailleurs, on félicite Hugues qui a téléphoné en premier pour la paire de billets au Pantoum demain soir, 20h30. Donc, félicitations. J'espère que tu auras un bon pistac.
Avec la première partie de Héron à découvrir sur la scène du Pantoum. Ça nous fait toujours plaisir quand vous nous appelez. J'aimerais ça faire plus de concours pour vous parler plus longtemps. Okay. Enfin, c'est pas exactement de même que ça marche. Et puis, ben, pour célébrer ce spectacle de... Voyons, cette fin de semaine de spectacle double pour Jean Do, c'était syntaxiquement correct, je vous offre la pièce Weekender sur les ondes de Chiz 94.3.
Ramène à la vie. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'ai traqué ma guitare pour un campeur de 1988. Si t'es toujours en retard, on reculera.
Chérie, j'arrive. C'est une chanson de Jean Do. Et puis, on a vu que vous aviez le goût d'aller voir ce spectacle-là, car plusieurs appels sont entrés en studio pour le spectacle de lancement au Pantoum ce samedi. Jean Do a déjà lancé l'album à Montréal. Donc, c'est un show qui est rodé, qui est réchauffé, qui a même été travaillé à la Chapelle Spectacle il y a plus d'un an. Je pense que la gang de Jean Do est prête à vous offrir un bon spectacle ce samedi. Julia, qu'y a-t-il au menu à Chérie, j'arrive en ce beau vendredi?
En fait, aujourd'hui, on va vous parler de Presque Studio, qui a été lancé la semaine passée, qui est un studio, je ne vous le cache pas, de musique pour les artistes de la ville de Québec qui ont envie de faire soit des photos, des vidéos, de la direction artistique complètement de la ville ici, donc formée par Laurie Foster et Sam Billington. On va vous en parler davantage tantôt.
Une initiative qu'on salue.
Voilà. Puis sinon, on va parler également de la pièce de théâtre Inframonde qui est présentée à premier acte en ce moment. Donc, moi, je suis très excitée à propos de ça. Là. J'ai plein d'affaires à dire.
Oh! Oui, t'étais comme... C'est la pièce que je veux aller voir absolument. Plus tu cherches là-dessus, plus
que je lisais, plus que je me disais, waouh, il y a vraiment quelque chose derrière cette pièce-là. Il y avait vraiment un sujet qui était.
Qu'est-ce qui t'a accroché dans le sujet ou dans.
Veux-tu que je t'en parle dès maintenant?
Ouais, okay,
je t'en parle dès maintenant.
Donc,
premièrement, la pièce Inframonde, c'est une pièce, un thriller sci-fi. Au théâtre, c'est rare qu'on voit ça. Deuxième chose, c'est une pièce qui s'inscrit vraiment dans le courant artistique en ce moment qui parle / dénonce un petit peu les urgences évidentes, invisibilisées. On parle de quoi? On parle de l'urgence climatique. On parle de l'influence des médias médias sociaux, sur les liens entre nous, entre les humains, sur l'impact que ça peut avoir sur toute notre vie finalement. Donc ces présences-là qui sont omniprésentes, mais dont personne parle et qui nous font un petit peu peur. Donc on est là-dedans. C'est une production de L'homme qui a vu l'ours. Il faut savoir que cette pièce-là, c'est une pièce de théâtre qui était originalement en anglais, donc un texte de Jennifer Haley, une traduction de Étienne Lepage, donc et aussi toute une équipe de production incroyable derrière. C'est un projet qui est futuriste. Puis ça parle d'un média social qui est complètement immersif, une immersion totale. Donc on parle d'une immersion sensorielle, visuelle, physique, tout ça. On est dans complètement quelque chose de nouveau. Donc c'est un univers dans lequel on a accès. C'est un peu comme le metaverse, mais encore plus poussé parce qu'on a les sensations comme dans la réalité dans ce média futuriste là. Oui. Il y a un enquêteur qui s'intéresse un peu à des espaces virtuels étranges dans cet univers là, qui entre autres le lieu Le Refuge, qui est un espèce de jardin victorien où les gens peuvent aller pour réaliser des fantasmes et assouvir leurs désirs les plus sombres. Et puis, tout ça, tout ce qui se passe dans cet espace-là, ça dépasse la réalité morale. Puis les questions centrales qui sont abordées, inscrit sur le site de Premier Acte, « Libéré de la contrainte physique, devient-on vraiment soi-même? Si personne ne souffre vraiment, peut-on faire souffrir? » Donc, c'est les questions qui sont derrière cette pièce-là. Moi, ça m'a beaucoup accroché. Je trouve qu'on est dans quelque chose d'hyper pertinent, là.
On va en parler à 16h30 avec Maxime Perron, qui est à la mise en scène de cette pièce-là. Et puis, comme ça a pris l'affiche cette semaine, il n'est pas trop tard pour prendre des billets pour le premier acte. Ça ferait une belle sortie pour ce week-end.
Oui, dépêchez-vous, d'après moi, ça va partir vite.
L'inframonde. C'est une nouveauté musicale avec laquelle on va poursuivre cette édition de Chérie, j'arrive. Fudge nous annonçait lundi dernier la sortie de son album. On l'attend quand même avec impatience pour ce groupe rock. Qu'un cauchemar devienne si vrai, c'est le 19 mai que l'album sera rendu disponible. Puis aujourd'hui, on nous laissait avec un deuxième extrait. On aime les saints, S-A-I-N-T-S. On parle de religion dans cette pièce-là. La radio étant un média oral, je préfère épeler le terme pour être sûr qu'on parle la même affaire. Le vidéoclip d'On aime les saints a été réalisé par Intelligence artificielle. Certes, il y a eu du montage fait par une personne humaine à la suite de ça, mais c'est une banque de mots que le chanteur a fournie à une intelligence artificielle qui a permis de créer ce vidéoclip-là, qui donne quelque chose d'un peu psychédélique, morbide. C'est spécial, le rendu d'image que produit l'intelligence artificielle. Je t'avoue, Julia, que je sais pas si je me sens à l'aise en regardant le clip de savoir que c'est le produit d'une intelligence artificielle. Même le communiqué de presse, disait le Ben, pour avoir de la suite dans les idées, a aussi été rédigé à l'aide d'une intelligence artificielle. Donc là, ce que je lisais, c'était pas l'attaché de presse normal, régulière, avec qui je suis en contact, qui le formulait. Donc c'est particulier quand même ce que Fudge a osé faire avec On aime les saints, qui, comme je le disais, critique un peu cette relation, cette dichotomie qu'on vit avec la religion.
Ben on voit ça de plus en plus, hein, beaucoup dans n'importe quel média, que ce soit en art, dans le journalisme, des contenus qui sont complètement produits par intelligence artificielle, puis que les artistes utilisent pour critiquer un peu là, la réalité, remplacée, bonifiée, perfectionnée par les intelligences artificielles. Puis, je pense que ça devient une question qui est vraiment de l'heure, là, parce que j'en entends parler sans arrêt. Puis pour quelqu'un qui n'est pas trop informatique ou rien comme ça, c'est vraiment quelque chose qui revient dans mon entourage, non seulement en art, mais là, tu m'apprends que aussi, tu sais, dans un vidéoclip, ça se fait aussi. Puis,
pour la communiqué de presse.
C'est vraiment dans le courant artistique en ce moment également.
Puis, à mon sens, Fudge est un des Enfin, de ce que j'ai vu, serait un des premiers groupes québécois à utiliser l'intelligence artificielle pour un clip. Il y a quand même pas mal de groupes internationaux qui ont commencé à le faire. Je pense à Die Antwoord ou King Gizzard and the Lizard Wizard. Là. Mais ici, au Québec, bon, je t'ai vu plisser de la face avec ma prononciation anglaise. Mais je pense qu'au Québec, Fudge est un des premiers groupes à se lancer là-dedans. Donc, si vous avez le goût de jeter un petit coup d'œil au clip On aime les saints, sachez que c'est pas juste humain ce qu'il y a derrière ces images-là, mais je vous ai assez parlé de la toune, ça serait le fun que vous puissiez l'entendre. Ça sera sur l'album qui va paraître le 19 mai prochain pour Fudge. Le groupe va être en spectacle le 3 juin au Pantoum. On sait que les billets s'envolent comme des petits pains chauds pour cette salle-là, alors vaut mieux vous le procurer dès maintenant. On aime les saints, une chanson de Fudge à Chérie, j'arrive.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
À Conduite Antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À Conduite Antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite Antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Émilie.
Ensemble, on doit sauver le Québec avec...
Écoute locale! Gare à mon arme secrète, la playlist. 100% nouveauté de la ville de Québec, un lundi sur deux, 14h.
L'autre lundi sur deux, 14h, je frappe fort avec les entrevues et les questions qui tuent.
Écoute locale!
Les entrevues,
écoute locale! La playlist...
Lundi, 14h, on sauve la musique
à Chiz 94.3.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Radio Futura est de retour! Viento, viento, santi dimanche, pronto, pronto. Si algo me está enseñando la vida, es que no hay que hacer demasiados planes, que todo puede cambiar en tan solo un momento, que hay que aprovechar cada oportunidad, que hay que saborear cada segundo, cada instante, que esto solo dura un ratito. Entonces hay que lanzarse sin miedo a vivir cada bendito momento. We are back live, Santi y Dimanche, Radio Futura. Pronto, pronto, viento, viento.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est le but.
Les Remparts de Québec visitent les Tigres de Victoriaville ce vendredi 17 mars à 19h. Rejoignez Ray Cloutier sur nos ondes dès 18h45 pour l'avant-match. Rempart Tigre, vendredi à 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
Desjardins, c'est un monde de possibilités de carrière. C'est plus de 800 types d'emplois dans plusieurs domaines au-delà de la finance comme l'éducation, les technologies de l'information et les communications. Évoluez au sein d'une entreprise qui vous permet de vous réaliser autant dans votre vie professionnelle que personnelle. Avec des centaines de millions remis aux membres et à la communauté par année, chez Desjardins, vous ne bâtissez pas que votre carrière, vous bâtissez plus grand que vous. Trouvez un poste près de chez vous sur desjardins.com/carrière.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie J'arrive, émission culturelle du retour à la maison. Et en ce beau vendredi sur les ondes de Chiz 94.3, je suis accompagnée de ma co-animatrice du jour, Julia Baumertre. Bienvenue en monde. Tout juste avant la pause publicitaire, on vous parlait un petit peu plus tôt en début d'émission de la pièce Inframonde qui est à l'affiche au théâtre Premier Acte depuis cette semaine. Avec nous pour en discuter, le metteur en scène Maxime Perron. Bienvenue à Chiz, Maxime.
Merci beaucoup, bonjour.
On a déjà quelques représentations de réaliser pour l'inframonde. Est-ce que tout se passe comme vous le voulez dans le meilleur des mondes?
Ah oui, oui, très, 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 très bien. Je suis très heureux de la réaction. On a eu beaucoup de scolaires aussi cette semaine. On en avait 3, donc c'est super d'aller à la rencontre de ce public-là aussi, un public secondaire, deuxième cycle, et voir comment cette clientèle-là reçoit la proposition. Et tout se passe bien. Je suis très, très, très heureux. J'avais une belle équipe. Tout est bien.
On peut avoir l'impression, Maxime, que c'est peut-être un sujet qui peut rejoindre plus facilement les jeunes, mais avoir la réaction de Julia tantôt qui disait « Ah, cette pièce-là me parle tellement! » J'ai l'impression que qu'on a tous quelque chose à aller y chercher, peu importe la génération de laquelle on fait partie. Là.
Ah oui, oui, absolument. Je pense que Internet, ou en tout cas l'Internet de demain, tout le monde va être affecté, ou est présentement même affecté avec ce qui se passe sur Internet. Donc, je pense pas que c'est une question de génération. Là, n'importe qui s'intéresse à ce qui s'y passe, ça va les intéresser, nécessairement.
Mm-hmm. Et dans l'inframonde, comment se réalise ou se déploie cet univers-là des réseaux sociaux, d'Internet? En quoi l'inframonde est-il un monde à part?
Ouais, ben c'est ça. Ben pour comprendre, faut comme faire un petit mini résumé là de où est-ce qu'on en est. L'inframonde, c'est une pièce de science-fiction, si on veut. En tout cas, ça s'emprunte certains codes de science-fiction. Ça se passe dans un futur plus ou moins rapproché où Internet est devenu une version boostée, là, qu'on appelle justement l'inframonde. Et l'inframonde, c'est là où se passe maintenant la plupart des interactions sociales. Donc, on parle des enfants qui vont à l'école dans des écoles virtuelles. On a la plupart des gens qui travaillent dans des bureaux virtuels. Mm-hmm. Et voilà, donc c'est devenu la référence contextuelle de base de nos existences dans un futur plus ou moins rapproché. Voilà, donc c'est là-dessus que se déploient divers métavers et dont un métavers particulier qui s'appelle Le Refuge. Le Refuge qui est un endroit créé par un personnage qui s'appelle Le Roi, qui lui a créé cet endroit-là, ce jardin de l'ère victorienne à la nature, et Golden Hour. On a des arbres partout, on est bien, ça fait du bien. Mais dans Le Refuge, les utilisateurs, les clients peuvent venir et assouvir leurs fantasmes sexuels ou meurtriers sur des avatars à l'apparence d'enfants.
Aïe, aïe.
Donc voilà. Donc, ça, c'est le hook, là, bien sûr, au niveau de la pédophilie. Ceci dit, on est dans un refuge pour adultes, donc c'est un roleplay consenti entre adultes consentants. Derrière l'avatar d'enfant, c'est un adulte aussi. Et donc là, c'est justement ça qui vient bousculer notre code moral intérieur, notre boussole intérieure des spectateurs ou des lecteurs, même quand on lit la pièce. C'est souvent, évidemment, à juste titre, c'est très tranché comme opinion en ce qui a trait à la pédophilie, mais là, on est dans un monde virtuel, un univers imaginaire entre adultes consentants. Donc, est-ce que c'est aussi grave? Donc, étant donné qu'il n'y a pas de quote unquote des victimes à proprement parler dans ce cas-ci. Donc, c'est là-dedans que j'amène les spectateurs. J'amène. C'est pas moi qui ai eu l'intelligence d'essayer ce texte-là. C'est une autrice américaine, Jennifer Hanley, qui a écrit ça en 2012. Et donc, moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec ça. Ce texte-là est extraordinaire.
J'ai l'impression que c'est une pièce qui a un potentiel de discussion éthique très riche. Il y a certaines pièces de théâtre où après, j'ai besoin d'aller toute seule à la maison. Mais ça, j'ai l'impression qu'on sort de l'inframonde puis c'est comme, non, on va prendre un verre puis je veux savoir ce que t'en penses. Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce monde-là?
Absolument. Puis la force de l'autrice, c'est qu'elle a pas pris position. Et les personnages, les visions opposées dans la pièce, dans le spectacle, c'est vraiment une joute de ping-pong où, comme spectateur, on est plus du côté du créateur du refuge, alors qu'on pensait jamais être en accord avec sa vision. Et d'autre part, on est du côté d'une détective, Harrison, qui, elle, cherche à trouver le serveur de ce refuge-là pour le faire fermer. Donc, absolument, elle n'a pas pris position. Puis moi, comme metteur en scène, j'ai pas voulu non plus trancher, donc laisser les spectateurs sont pris avec, moi aussi encore à ce jour, je dirais, là, avec comment je me situe par rapport à tout ça. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on sort de la salle avec, plein de questionnements. Voilà. Puis on a envie d'échanger, puis on a envie de savoir qu'est-ce que les autres ont pensé.
Ouais. C'est fou parce qu'il fut une époque où est-ce que, par exemple, en 2020, là, on considérait pas l'impact philosophique de l'Internet dans nos vies tant que ça. Mais plus ça va avec le métavers, comme t'as dit tantôt, plus qu'on se rapproche un peu de cette réalité-là, de l'inframonde, où est-ce que la frontière entre la réalité puis l'Internet puis le virtuel est tellement mince, puis les deux se rencontrent de façon tellement intrinsèque, c'est tellement délicat là, l'influence que ça a sur nos vies. Puis je me demandais le fait de laisser le spectateur avec la réponse finalement, que c'est comme de remettre entre ses mains, de dire OK, toi, qu'est-ce que t'en penses, de pas avoir fait de choix artistique. Est-ce que c'était difficile pour toi en tant que metteur en scène de de pas prendre parti, parce que clairement que dans une pièce aussi philosophique, on a presque envie de prendre parti, parce que ça peut être parmi les choix artistiques qui sont faits là, mais comment t'as vécu ça là, le fait de pas prendre parti, ou est-ce que c'était difficile pour toi?
Non, au contraire. Moi, quand je fais la mise en scène, j'aime ça me mettre dans la peau d'un spectateur. Puis moi, le spectateur, quand moi, je suis spectateur de théâtre, étant donné que je rencontre ça, j'aime pas ça qu'on me dise quoi penser exactement. Mmh. J'aime ça qu'on m'offre plein de portes, plein de possibilités, qu'on me donne certaines clés, mais c'est à moi d'aller les ouvrir. Donc, à partir de ça, j'aime ça avoir à faire un effort, moi, comme spectateur. Donc, qu'on me donne pas tout cuit dans le bec. Donc, voilà. Fait que j'ai offert ce que moi je voulais recevoir, okay, au final. Donc, c'est pas si difficile que ça, mmh, en sens-là. Ouais.
OK, c'est drôle parce que en fait, on aurait pu s'attendre, tu sais, il y a des gens qui sont très engagés dans leur façon de produire de l'art, puis prendre parti, ben ça fait partie de ça évidemment là. Fait que c'est sûr que sur une question par exemple comme sur la pédophilie, c'est un sujet qui est extrêmement délicat, ben je te trouve bon de tu sais d'avoir tenu ce bout-là, dans le sens de dire ben moi je veux offrir aux spectateurs vraiment une réflexion autour de cette polémique-là, le si dilemme, on veut là, ce dilemme-là moral. Ouais. Fait que ben en tout cas,
je
chapeau.
Pense que la réflexion est pas tant autour de la pédophilie, puisque ça, je pense que tout le monde s'entend pour, mm-hmm, pour dire que ça se peut pas, on peut pas accepter ça dans la vie réelle. À tout le moins, on peut pas accepter de passer à l'acte. Mm-hmm. Puis c'est ce que la pièce questionne, de dire, ben moi, dans la vie réelle, je ne passe pas à l'acte d'un personnage qui dit ça. Par contre, je me suis créé un espace imaginaire, mm-hmm, où j'ai créé une image qui me permet d'assouvir, de ventiler ces pulsions-là. Puis là, tu fais, ah ouais, c'est vrai qu'en ce sens-là, c'est peut-être pas pire. Puis là, t'as la détective qui fait, il dit, non, vous fournissez pas juste des images, là, vous fournissez aussi des avatars avec la peau, avec l'odeur, hein, parce qu'on est rendu là dans l'inframonde, il faut spécifier qu'il n'y a plus de distinction vis-à-vis de la réalité. Donc, les sensations physiques par nos sens sont comblées, on ne fait plus, ouais, la différence. Donc, elle dit, si on est pour vivre de cette façon-là maintenant, ben, il serait peut-être temps d'appliquer les mêmes lois dans ces univers-là. Mm-hmm. Parce qu'il y a une migration de masse là, dans ce monde-là qui s'en, mm-hmm, va vers l'inframonde et y vivre de façon permanente aussi. Donc, voilà, ça questionne la liberté de nos imaginaires et de nos, mm-hmm, fantasmes intérieurs qui nous sont propres dans notre sphère privée, dans notre tête, versus quand là, il n'y a plus de limites et que la réalité n'est pas... En fait, que les métavers font partie maintenant de la réalité, mm-hmm, ben là, il faut se poser la question. Parce que ça, on y arrive déjà, tu sais. Les métavers d'aujourd'hui, j'étais tombé sur une anecdote bien malheureuse à partir du moment où Meta avait créé son métavers en 2019 ou 2020. Rapidement, il y a une utilisatrice qui s'est plainte que son avatar avait reçu des attouchements sexuels de la part d'un autre avatar. Donc, on y est déjà après ça, mais ben là, l'inframonde fait juste pousser un petit peu plus le, mm-hmm, le contexte du ressenti physique, mais on y est déjà sur Internet avec les commentaires sur les réseaux sociaux, donc l'anonymat nous permet, en tout cas, on se permet dans notre anonymat, même si on le dénonce quand même pour la plupart d'entre nous, une liberté totale, mais... Je pense pas qu'elle peut être totale, mais bon, c'est ça la pièce question, au final.
Ça nous fait aussi questionner le pouvoir des lois dans un contexte comme en ligne. Puis ça nous fait aussi voir que même si d'un point de vue moral on est sûr de ce qui est possible de faire, c'est vraiment plus complexe quand on est dans un univers en partie ou totalement virtuel.
Oui, exactement. Puis on a juste à constater à quel point les gouvernements sont à la remorque des nouvelles technologies, ils n'arrivent pas à suivre avec la vitesse à laquelle tout va. Puis voilà, fait qu'il faut déjà lever les drapeaux. Puis l'Autriche a levé ces drapeaux-là en 2012 quand même. C'est assez impressionnant la vision de Jennifer Hallé là-dessus.
Oui, puis Maxime, tu le disais, comme la pièce date de 2012, as-tu l'impression qu'elle va bientôt être déjà dépassée? Tu sais, en ce moment, là, j'ai l'impression que ça nous permet de faire des réflexions avant d'être exactement rendu là, mais à la vitesse où les choses vont, est-ce que tu penses que bientôt l'inframonde sera déjà plus avant-gardiste?
Oui. Moi, oui, définitivement. Mais comme beaucoup dans le genre de la science-fiction, hein, ouais, on est... Quand on finit par dépasser la date qui est nommée dans l'œuvre, en fait, on n'est pas rendu là, hein, on n'est pas nos voitures volantes finalement. Ouais. Mais là, on est dans un point de vue un peu plus philosophique et intellectuel. Puis, oui, je pense que même à certains niveaux déjà, on l'a dépassé, non? Mm-hmm. On l'a dépassé. Ouais. Et y a une forme d'hypocrisie un peu en ce qui concerne ce qu'on tolère comme société sur certains contenus sur Internet, ou en tout cas qu'on tolère parce qu'on se dit que c'est légal, entre guillemets, mais au final, d'un point de vue moral, c'est pas toujours très glorieux ce qu'on retrouve sur Internet déjà présentement.
En effet. Puis, Maxime, en terminant, je rappelle aux gens les dates pour l'inframonde. C'est au premier acte jusqu'au 1er avril, mais il y a quand même une activité satellite, disons, qui a lieu autour de la pièce. Il y aura une discussion la semaine prochaine, là, le 24 mars. En quoi ça consiste?
Ben, c'est une discussion. Ils font ça au premier acte. Il y a toujours une discussion avec une personne experte du milieu, ou en tout cas en lien avec le milieu. Donc, le 24 mars, en effet, il y aura une discussion avec Nadia Faraïko, qui est là avec nous à premier acte. Que peut-être vous avez déjà entendu parler de Nadia. Elle a fait beaucoup de chroniques à Radio-Canada, entre autres. Et son champ d'études m'échappe présentement. J'aurais aimé ça le dire. Elle est doctorante présentement.
Je crois que c'est les cybercultures, datafication, ce genre de choses.
Exactement. Ouais. Donc, tu fais, oh, c'est quand même un privilège de pouvoir avoir cette personne-là qui va pouvoir échanger avec le public, avec les interprètes aussi, autour de ce qu'on viendra voir. Mm-hmm. Et aller peut-être plus loin dans la réflexion, puisqu'on aura quelqu'un de beaucoup plus calé que moi. Même, j'ai fait mes recherches, là, mais je l'ai pas poussé jusqu'à aller au doctorat quand même.
Bien, Maxime Perron, metteur en scène de la pièce Inframonde, merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Je n'entends que des échos positifs pour le moment pour l'Inframonde, alors moi aussi je vais aller faire un tour au premier acte très bientôt.
C'est extraordinaire, j'ai hâte d'entendre votre commentaire à ce moment-là.
C'est gentil, merci d'avoir été là.
Au revoir, merci.
Bye bye.
Et qui dit vendredi dit nouveauté musicale. Sam James n'y fait pas exception. Le titre Je n'habite pas chez moi est paru aujourd'hui et vous l'entendez à Chérie J'arrive.
Dans un pantin, comme une voiture dans un ravin, je suis là où ça ne va pas. Comme un fantôme dans le miroir, comme une ombre dans ton histoire, je n'habite pas chez moi. C'est un revenant ici. Enfin, à quel point moi j'ai changé. J'en ai assez de faux semblants, de la honte et des gambans qui ne me servent plus à rien. Comme une roue sur le tarmac, l'amour qui part à l'entraque. Ne te laisse pas le choix. Comme un doute dans le certain, et une tache sur le dessin, je ne m'effacerai pas. C'est un revenant ici. J'en ai assez des faux semblants, de la honte.
parfois que de rêver. Ici, la brume nous enveloppe. Avant que le mal de terre nous chope, j'attends prochain traversier. Dans mon bocal, je regarde les avions voler, la pluie danser et les fleurs faner. Désolée, je dois prendre le large parmi les nuages. Je viens tout juste de pour toucher le bout du monde. Tes questions résonnent encore trop fort, même si loin de ton corps. Dans mon bagage, je regarde les avions voler, la pluie danser.
Nuage, une chanson de Jessica Charlie sur les ondes de Chiz 94.3. Chérie, j'arrive se poursuit jusqu'à 17h30 en ce rendez-vous culturel du retour à la maison. Vendredi, quand même pas fâché. Julia, je pense que toi non plus.
Non, pas fâché.
Au début de la semaine prochaine, de la semaine dernière, dis-je, ça va bien, Presque Studio lançait ses activités. C'est un nouveau projet dans la ville de Québec, Julia. C'est le projet, en fait, de deux artistes visuels, Laurie Foster et Sam Billington, qui veulent offrir des services à la fois de direction artistique, de photos, de vidéos, pour les artistes de la ville de Québec, notamment les artistes qui œuvrent dans le milieu musical. Et pour en apprendre plus sur ce tout nouveau projet, Émilie Rioux, animatrice et chroniqueuse sur les ondes de Chiz 94.3, est allée rencontrer les deux amis à l'origine de ce projet. On vous fait découvrir Presque Studio dans les prochaines minutes.
Ici Émilie Rioux pour Chiz 94.3. Je suis en compagnie de Laurie Foster et de Sam Billington qui ensemble viennent de commencer, de starter un nouveau projet, un nouvel organisme. Bref, un nom que vous devez connaître dès maintenant. Ça s'appelle Presque Studio. Et on va leur parler un petit peu de leur parcours. On va apprendre à les connaître et au final à savoir qu'est-ce que c'est que ça, Presque Studio. Je commence par vous saluer, évidemment. Bonjour. Juste vous présenter, dire un petit peu aux gens c'est quoi votre parcours, d'où vous venez, c'est quoi vos antécédents avant Presque Studio.
Dans le fond, moi puis Sam, ça fait environ 5 ans qu'on travaille ensemble. On était coloc sur la rue Saint-Olivier. Dans le fond, on avait eu l'idée de faire des vidéoclips où est-ce qu'on filmait des gens dans la rue en train de danser sur leur tune quétaine préférée. Puis on mettait des sous-titres comme un peu style karaoké. Fait qu'on a commencé avec ça, on avait vraiment rien à perdre, on essayait ça, on n'avait pas d'expérience du tout. Puis on s'est juste vraiment fait du fun, puis ça a comme découlé de tout ça. On a commencé à se dire, hey, on travaille bien ensemble, puis ça serait le fun de continuer ce duo-là. Donc, on a eu plusieurs contrats qui sont venus par la suite. Puis, on s'est dit un moment donné, ben là, c'est le temps d'officialiser la chose puis d'avoir un nom. Fait que, voilà.
Dans la vie, vous êtes déjà actif dans le domaine artistique, dans la photo, dans le vidéoclip. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez décidé, tu sais, de vraiment d'unir vos forces? C'est quoi l'étincelle, mis à part ce que tu viens de me raconter, qui a fait en sorte que tu as dit, OK, ben, je pense que ça vaut la peine? C'est quoi, qu'est-ce qui vous unit le plus, finalement, comme duo artistique?
Yes, ben, je pense que, à la base, c'est vraiment, on tripe sur la musique. Musique, théâtre, les affaires de la scène, les deux depuis longtemps, tu sais, même back au secondaire, tu sais, moi puis Laurie, on était au secondaire ensemble. On n'était pas aussi amis qu'on l'est maintenant, mais... Mais oui, mais Laurie, elle organisait des danses, puis elle nous faisait pratiquer des danses, puis nous, toutes les boys, on était oh, « Non, on s'enfuit du gymnase, puis on veut pas faire ça! » À cette heure, je suis comme « Laurie, fais-moi des chorégraphies! » Mais... Fait que c'est vraiment ça, on tripait surtout la musique, je pense, puis éventuellement quand on s'est retrouvés en ville, puis on avait des amis en commun, puis plus des l'envie de faire des projets, tu sais, on était comme, OK, ben moi, mettons, de mon bord, c'est surtout le visuel, la photo, la vidéo que je faisais au début, mais encore aujourd'hui, mais tu sais, c'était ça mes forces quand on a commencé, puis Laurie, c'était vraiment plus la direction artistique, la réalisation, puis on était comme, chacun notre bord, on est bon, mais on se rend nulle part, tu sais. On a besoin d'être plusieurs, on a besoin d'une plus grande équipe, puis en réunissant nos forces et aussi nos réseaux de contact, on est capable d'aller plus loin. Puis c'est ça, on a commencé comme que Laurie a dit, avec juste des petites vidéos bien le fun que je filmais à l'épaule avec nos amis, puis on faisait les petits montages, puis on mettait ça sur YouTube, puis c'était juste comme un petit hommage à nos amis, puis au fun qu'on a avec la musique, tu sais. Puis après ça, on avait envie de plus se poser avec de l'intention, puis de raconter des histoires, de montrer, de rajouter des visuels, dans le fond, au projet des gens qu'on aimait beaucoup.
Oui, puis aussi, je trouve que on a comme des esthétiques un peu différentes, puis des façons de fonctionner qui sont différentes, mais qui se complètent vraiment bien. De mon bord, j'ai comme un côté plus théâtral, plus poétique. Du bord à Sam, c'est plus... comment dire, décontracté, humoristique souvent. Puis je trouve que le mélange des deux, ça donne quelque chose qui a plusieurs couches, qui est plus nuancé. Donc, on se complète vraiment bien ensemble. Ouais.
C'est quoi le principal défi lorsqu'on se lance comme petite entreprise? Qu'est-ce qui, en ce moment, à vos tout débuts, on s'entend, ça fait quand même pas si longtemps que vous êtes lancé. Ça fait, en fait, dans les faits, quelques semaines à peine, vraiment, que vous avez officialisé le tout sur les internets, que c'est Facebook Official. mais oui, devant quel défi vous vous retrouvez en ce moment, selon votre lecture, puis selon votre expérience jusqu'à maintenant, comme duo, puis comme artiste, chacun de votre côté?
Je pense que, tu sais, les défis qui viennent avec ces projets-là, souvent, c'est... En tout cas, pour moi, c'est la côté logistique de l'organisation, la production. C'est beaucoup de temps puis d'énergie pour monter ces affaires-là. Puis c'est quelque chose que tout seul, c'est... En tout cas, de ma part, c'est quasiment impossible.
Moi, je pense qu'un des défis pour un duo artistique, là, c'est la communication. Je pense que c'est super important de communiquer tout le temps comment qu'on se sent, puis on travaille tellement étroitement dans ces contextes-là que ça peut facilement devenir... il peut y avoir des conflits, il peut y avoir... Puis je pense que moi et Sam, on a cette force-là de bien communiquer puis de nommer les choses, mais c'est quelque chose qu'il faut travailler à tous les jours.
Vous connaissez bien la scène musicale de Québec, j'imagine. En tout cas, je vous le souhaite. Sinon, ben, on peut se parler. Je vais vous faire découvrir des bands, aller voir, c'est capoté. Mais vous connaissez donc bien la scène de Québec. Qu'est-ce qui vous inspire là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez qui est votre étincelle créative dans les humains, les projets musicaux, dans le bassin artistique qu'on a en ce moment? Parce que c'est votre public cible, j'imagine, là, le côté musical. Qu'est-ce qui vous allume là-dedans?
Moi, ce que j'adore, là, c'est quand on starte un projet... On a tellement de potentiel, puis on a tellement un infini de possibilités de où est-ce que ça peut s'en aller. Puis nous, on est dans ce même mindset-là, dans le sens que on commence notre projet. Fait que d'avoir plein de gens qui commencent un projet ensemble, ça nous donne vraiment la liberté de dire ça peut aller là, ça peut aller là, ça peut aller là. On essaye, on n'a rien à perdre, on ose, puis c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de liberté créatrice dans tout ça.
Puis si je peux continuer sur l'idée, tu sais, avec ces possibilités-là, on dirait qu'en ce moment, à Québec, il y a tellement de talents sur la scène qui est en train d'émerger, Puis il y a un feeling, je trouve, de nouveautés, de possibilités un peu infinies ici en ce moment. Comme il y a une scène bien développée, existante à Montréal, puis on entend souvent depuis longtemps, tu sais, nos artistes sont partis à Montréal faire leur carrière, puis on est tout le temps comme « Ah, on a perdu telle personne ». Mais là, depuis comme une couple d'années, j'entends le contraire arriver pour la première fois, où que le monde sont comme « Ah, j'étais à Montréal, puis je suis venu à Québec parce que la scène musicale ici m'intéresse full ». Puis il y a un esprit de collaboration qui existe ici, vraiment intéressant du fait qu'on est tous un peu... On a une carte blanche où qu'on peut faire de notre scène musicale à Québec ce qu'on veut. Puis à travers le visuel des artistes, puis à travers la musique de nos musiciens, il y a vraiment de quoi d'excitant à aller chercher, puis à se positionner non seulement au Québec, mais même le Canada, puis le reste. On est pertinent, on a notre place, puis je pense que notre but, c'est de vraiment faire shiner notre monde ici, de tous les bords. T'sais. Autant les musiciens, les bands, les autres photographes, les gens qui font de la vidéo, il y en a tellement de la possibilité en ce moment, puis c'est vraiment le fun de faire un peu partie de ça. Puis on espère juste avancer avec nos amis à Québec là-dedans.
Il y a effectivement beaucoup de solidarité à Québec. Je pense que c'est ce qui peut définir le mieux, en tout cas selon moi, les discussions qui gravitent autour du milieu, peu importe le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels. Je pense que la clé du succès ici, vous l'avez bien nommé, c'est le côté solidaire, le côté d'entraide, puis de pouvoir vraiment être un tissu social, puis un écosystème qui est fonctionnel, qui est cohérent, puis qui s'en va un peu tout à la même place, puis qu'on fasse une œuvre collective de tout ça. Et là-dedans, ben, il va s'inscrire dans les prochaines années, dans les prochains mois et même dans le moment présent, Presque Studio. La question qui tue, les amis, c'est pourquoi Presque Studio? C'était quoi l'idée derrière la possibilité de tous les noms de vous nommer Presque Studio ensemble?
Regarde, je vais essayer de tenter une explication comme complète de notre nom, parce qu'à la base, on en avait plein de possibilités, comme tu dis, hein, ça peut être tout, puis je pense qu'une affaire que moi puis Laurie, on a dealé avec beaucoup à travers nos projets, puis avec, pas juste les projets ensemble, mais juste les projets en étant jeune à Québec, en ayant moins de ressources, c'est comme, je pense qu'on a l'impression de presque être là, presque avoir ce qu'on veut, presque avoir le budget, presque avoir les éléments, presque, mais tu sais, de dealer avec le presque, puis de rendre ça beau, puis un produit qui a pas l'air d'être presque fini, tu sais. Fait que c'est un peu jouer sur l'ironie du mot presque, puis il y a comme, ça peut être pas négatif, je veux dire, mais il y a comme un côté plus décontracté avec le presque, de comme, oh, presque arrivé, on a presque, mais c'est pas ça, tu sais, on n'est pas presque une boîte, on n'est pas presque un duo artistique, on l'est, puis nos projets sont concrets, puis sont complets, mais on aime jouer quand même avec le petit côté on assume qui qu'on est, puis la réalité dans laquelle qu'on vit, puis... Et voilà, c'est d'essayer d'être authentique à travers tout ça aussi. Il y a plein de noms qui peuvent être n'importe quoi, puis on veut que ça fitte un peu avec nous autres, puis avec ce qu'on aime, puis on se prend au sérieux, mais pas trop.
Ça vient aussi rejoindre l'idée de faire beaucoup avec moins, et ça, c'est la réalité de quand tu commences. Laurie, à la direction artistique, c'est quand même toujours un grand défi, j'imagine, qui t'est posé. C'est un petit peu les règles du jeu que tu joues. J'imagine, en faisant de la direction artistique. C'est quoi ta réalité là-dedans? Comment est-ce que tu pourrais en parler aux gens qui comprennent pas nécessairement ce que ça veut dire de faire beaucoup avec peu?
Ben, je dirais que ma ressource principale en ce moment, c'est Facebook. Je fais appel à Facebook, à mes amis Facebook, quasiment à tous les jours. Je dis « Hello groupe, j'ai besoin d'un parapluie rouge et blanc, j'ai besoin d'une radio des années 50, j'ai besoin d'une balayeuse vintage. » Et les gens sont là pour moi. Ils prennent ça au sérieux, puis c'est drôle. Des fois, je croise des gens dans la rue, puis ils me disent « Pis, tu l'as-tu trouvé ta balayeuse? » Puis ils sont investis dans la chose, puis c'est... On l'a trouvé, la balayeuse. Elle est magnifique. mais c'est étonnant à quel point tu peux trouver des affaires gratuitement. Les gens sont prêts à aider, puis ils veulent prêter leurs affaires. Ils veulent nous aider gratuitement. On fait beaucoup d'échanges de services aussi. Tu sais, comme on a travaillé avec Clara Daly, qui nous a stylé pour notre photoshoot de lancement. C'était un échange de services qu'on a fait avec elle. Puis il y a moyen de moyenner avec peu. Vraiment, faut juste faire appel à notre communauté, puis les gens vont être là, vont rentrer au poste.
Oui, c'est très communautaire dans cette idée-là. Je pense que ça vient rejoindre un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Bon, l'essentiel maintenant, c'est de pouvoir suivre votre travail et à travers votre travail, de pouvoir suivre et découvrir peut-être même des projets de la Ville de Québec, que ce soit musical ou d'autres avenues, parce que bon, hein, c'est Québec. Comment est-ce qu'on peut justement suivre votre travail? Où est-ce qu'on vous suit? Où est-ce qu'on a les yeux lorsqu'on veut voir qu'est-ce que fait Presque Studio?
Mais pour l'instant, on a un Instagram qui est Presque Studiose, tout en un mot, avec un S à la fin de studio. Mais sinon, on a un site web. Fait que ça, on peut le trouver à partir du Instagram. Sinon, on a Presque Studio sur Google, ça va sortir, ouais. Si vous allez le voir live, il est pas fini. Fait que vous allez voir comme le presque site web. quand je vais avoir du temps, je vais le finir. Mais sinon, c'est ça. Pour l'instant, Instagram, puis notre site web. Puis ils vont éventuellement avoir un Facebook. Éventuellement, il y aura un Facebook.
Ben, de quoi quand même aller voir ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et de suivre aussi individuellement votre parcours et tout ça. Mais effectivement, le site web est un bel endroit où commencer votre recherche et la continuer éventuellement. Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup, Laurie. Et ben, longue vie à Presque Studio.
Motherfuckers on the side, on reste positif, on garde le focus sur le prize.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. Parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du Petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou-Adriane Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou-Adriane Casti les 13 et 14 avril à l'Impérial Belle. Billets en vente au impérialbelle.com.
Premier acte, en collaboration avec la Caisse des Jardins de Québec et L'Homme qui a vu l'ours présente L'inframonde de Jennifer Hallé dans une traduction d'Étienne Lepage et dans une mise en scène de Maxime Perron.
On a une belle maison ici, Iris. Tu fais partie d'une belle famille dans laquelle tu occupes une place importante. On a aussi une communauté agréable, mais tu sais ce qu'on offre, qui est le plus important, une vie en dehors de toute conséquence.
L'inframonde, du 14 mars au 1er avril 2023. Pour information ou l'achat de billets, premieracte.ca.
Vous êtes toujours à l'écoute de Chérie, j'arrive sur les ondes de Chiz 94.3. Madame Demeul se trouve derrière la console et Julia Baumert est ma co-animatrice du jour. Oh, ce serait le fun, j'ouvre ton micro. Allô, Julia.
Hey, hey, hey.
On se prépare à vivre une fin de semaine culturelle, autant d'un point de vue musical que d'un point de vue littéraire, et on a préparé une petite liste de sorties à faire. On a déjà parlé de ce qui allait se passer sur la scène du Pantoum, notamment Olivia Coury qui lance son album ce soir, tout comme Jean Do demain. Ce sera aussi l'occasion de découvrir le projet de Héron, dont on sait pas grand-chose encore. Alors, ça vaut la peine de se garder la surprise pour la première partie du show de Jean Do. Mais Julia, toi aussi, t'as quand même préparé un petit calendrier pour nous.
Oui, c'est ça, toujours en actualité culturelle, en fin de semaine. En fait, ce soir, précipitez-vous, à 18h, il y a le festival du film du Québec qui s'appelle Effet Papillon, qui sera présenté au pavillon Le Cazot à partir de 18h ce soir. Vous pouvez y aller pour 5$ par soirée. Ça s'étale sur 3 jours, bien pour 12$ pour les 3 jours. Donc, on va présenter là, 3 courts-métrages étudiants qui proviennent de partout à travers la province. Donc, ça promet d'être très intéressant. Ensuite de ça, pour continuer, on a également, en fait, la semaine prochaine, on est quand, là? 17. Bon, aujourd'hui, demain, salle multi de Méduse, il y aura le spectacle de danse « Se méfier des eaux qui dorment » de la compagnie Yvan Alexandre. Donc, Ils sont complets déjà pour les billets, désolé tout le monde, mais on les félicite grandement parce que c'est toujours plaisant d'avoir des événements qui sont complets d'avance.
Bravo La Rotonde, d'autant plus que ce soir, il y avait une discussion organisée avec les artistes après la représentation. La Rotonde le fait souvent, puis ça permet d'avoir des clés de compréhension de la danse contemporaine, donc c'est le fun de surveiller laquelle des deux représentations va être accompagnée d'une discussion avec la troupe.
Oui, voilà, puis c'était un spectacle de danse qui était très thématique aujourd'hui parce qu'on a parlé beaucoup autour de cette question-là. Donc, leur question sur laquelle ils s'interrogent puis qu'ils dansent pour présenter la réponse, c'est « Qui sommes-nous empêchés dans un corps d'oiseau sans possibilité d'envol? » Donc là, on trouve encore une relation entre le corps et l'espace, entre les possibilités, entre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Donc, ça promet. On est excités pour ça, pour eux.
Moi, ce qui me rend bien énervée, c'est la poésie, Julia. Ça fait drôle d'une même, mais vraiment. Puis ce soir, c'est la soirée mensuelle traditionnelle du collectif Ramen. Ça se passe au Dôme, sur le boulevard Langelier. Les gens sont attendus dès 19h30. La soirée commence à 20h. Et c'est une soirée poétique qui se veut tout à fait accessible. D'abord, d'un point de vue financier, c'est une contribution suggérée volontaire de 5$ et c'est accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc, si vous arrivez là en fauteuil roulant, il n'y a pas de problème. Le Dôme est une salle accessible à tous et à toutes. Les poètes, poétesses invitées de ce soir, Geneviève Dufour et Laurence Veilleux, et toutes les nouilles seront invitées à participer à un micro ouvert parce que le collectif ramène quand même. Ses membres sont des nouilles. Elles peuvent participer au micro ouvert en fin de soirée et c'est un bel espace pour faire des premiers pas poétiques.
Oui, voilà. Puis, pour poursuivre, en fait, là, dans la poésie, on a aussi ce dimanche à Carnet ouvert, à la Maison de la littérature, qui est en fait la présentation des artistes en résidence Acadie-Québec, qui a pour thème corps, texte, deux points, mécanique. Donc, l'idée de la mécanique, du mécanisme, interpelle à la fois la machine et l'humanité, de même que les liens entre les deux, les liens vont être explorés par les artistes sous différentes formes d'expression. Donc, on a comme la première partie de cet échange-là qui va être présentée, puisque la seconde partie qui se déroulera à Caraquet en Acadie/Nouveau-Brunswick se produira au mois de juillet cet été. Donc, là, on a la première partie puis il y aura la deuxième très éventuellement bientôt.
Puis ça ratisse large les activités à faire à Québec ce soir, ce qui m'amène à ma dernière proposition, Julia. C'est à la Charpente des Fauves, ça commence là, c'était dès 4h. Donc si vous avez pas soupé, si vous avez pas nourriture et breuvages sont fournis sur place, c'est à contribution volontaire aussi. C'est une soirée de financement qui s'intitule Défendre la forêt d'Atlanta. Il y a une forêt qui est menacée en ce moment, et puis il y a plusieurs militants, militantes qui ont été arrêtés en tentant de défendre cette forêt-là. Eh ben, il y a des gens de Québec, des artistes qui se sont mobilisés pour récolter des sous afin de venir en aide aux militants et aux militantes qui ont des frais judiciaires à couvrir pour se défendre. Alors, si ça vous intéresse de contribuer, c'est à la Charpente des Fauves jusqu'aux petites heures. Donc, discussion, bouffe, exposition qui sont en cours. Et il y a des perfos artistiques dès 20h. Donc, si vous êtes pas dans la musique nécessairement, ou dans le théâtre, ou dans les mots, les performances, c'est votre truc, ben c'est à la Charpente ce soir, DJ set en fin de soirée. Mais dès 20h, Allegria Gobeil, Arcadie Lavoie-Lachapelle et Hugo Nadeau seront là en performance. Il y a aussi toutes sortes d'objets, promos, de marchandises à se procurer. Donc, si vous pouvez pas rester le temps des performances, mais que vous avez quand même envie de contribuer financièrement à cette campagne-là de sociofinancement, pensez faire un petit tour à la Charpente quand même, vous procurer une médaille, un chandail ou tout autre objet artistique préparé pour l'occasion. C'était, Julia, nos suggestions du vendredi.
On se peut plus, là.
Une nouveauté musicale, Dope Gang arrête pas de sortir des singles sans trop nous avertir. Des fois, Dope Gang sort un album sans nous avertir. J'apprécie la spontanéité de ce duo montréalais. Et aujourd'hui, il lançait le titre Sticky. Le voici donc, sur les ondes de chez 94.3. We're sipping till it's sticky on the floor. We're dripping, getting drippy on these phones. We're sipping till it's sticky on the floor. We're dripping, getting drippy on these phones. Been looking at
got the bright side shining light. Finding my way through all the drama, j'en ai marre. De vos attentes et de vos questions, y'a pas de questions. Dove gagne la maison, new generation. With a vision, lâche pas le morceau. Sans sourire, mais ça devient méchant now. Name is tout qui mix up les potions now. Roll up un rouge, j'ai mis la pression now. J'ai pas l'impression que vous êtes ready now. On ice till my vision blurred, post mal le feu. Never know when to stop, c'est jamais juste nous deux. Blow out des bougies, fais un vœu. Je vais mourir, je vais un saut.
I'm sipping till it's sticky on the floor.
Avez entendu Sticky de Dope Gang, nouveauté musicale du jour, le vendredi, pis, c'est propice.
Puis moi, j'ai trippé, là. C'était une découverte pour moi, puis waouh, waouh, waouh.
Ouais, j'aime ça, t'as pris une couple de notes à soi. T'es comme, hey, ça, mon ami, ouais, mais ça, moi, ça, j'aime ça.
Oui, oui, c'est palpitant.
On a proposé pas mal de sorties culturelles à faire ce week-end, Julia. Puis il y a des sorties théâtrales qui sont vraiment le fun. On a parlé de l'inframonde plutôt parce que Maxime, le metteur en scène, était avec nous. Mais il y a de nouvelles pièces dans tous nos théâtres actuellement.
Oui, puis ça a l'air que toi, t'es allé les voir en plus de ça. Fait qu'on va parler, entre autres, parle-nous dès maintenant de « N'essuie jamais les larmes sans gants » qui est présenté en ce moment depuis la semaine dernière au Trident.
Ouais, c'est un titre qui vous dit peut-être déjà quelque chose comme auditeur et comme auditrice parce que c'est une adaptation du roman de Jonas Gardel qui traite notamment de la crise du sida dans les années 80. C'est pas quelque chose avec laquelle j'étais particulièrement informée ou familière. C'est pas du théâtre documentaire, donc c'est quand même une œuvre de fiction, mais très, très réaliste. C'est-à-dire qu'on en sort quand même instruit par rapport à la réalité que les gens affectés ont vécu, mais aussi comment on a traité la crise, puis comme si, parce que ça touchait une minorité puis que ça touchait la communauté homosexuelle, ça n'a pas été pris rapidement au sérieux. C'est drôle parce que quand je suis entrée dans la salle puis qu'on a dit cette pièce, une présentation 3h30 avec entraque, j'étais genre « Eh! 3h30! » Je savais pas que ma veillée allait être occupée au théâtre. La durée m'a presque fait peur, mais j'ai eu l'impression d'être assise une demi-heure au théâtre. C'est justifié que la pièce dure aussi longtemps. On s'attache aux très nombreux personnages. Il y a du monde sur scène, mais on s'attache plus particulièrement à Rasmus, qui est joué par Olivier Artaud de merveilleuse manière, qui lui va quitter son milieu familial justement pour aller vivre son homosexualité ailleurs. Et Benjamin, qui lui fait partie des témoins de Jéhovah. Pour lui, si finalement il choisit de vivre son homosexualité au grand jour, c'est une genre de double déchirure parce que, un, il se sent stigmatisé, mais en plus, il doit quitter sa communauté, sa famille. Il est mis au banc de la société fois deux, lui. Il perd complètement tous ces repères.
Oui, puis c'est des enjeux qui touchent énormément de personnes, même encore aujourd'hui. Là, je pense particulièrement aux personnes aux États-Unis là, qui vivent dans des communautés religieuses fermées. Là. C'est super d'actualité encore comme, comme enjeu.
Oui, puis c'est une mise en scène d'Alexandre Fecteau. J'avais vu mise en scène par Alexandre Fecteau, Hôtel Dieu, il y a une couple d'années, puis c'est à ce jour une des pièces de théâtre qui m'a le plus rentrée dedans. Fait que j'avais très, très hâte de retourner voir une mise en scène de ce cher Fecteau. J'avise quand même les gens qui nous écoutent et qui aimeraient aller voir Ne suis jamais de larmes sans gants au Théâtre Trident que c'est une pièce 16 ans et plus. Il y a des scènes de nudité, des scènes pas nécessairement faciles, il y a des effets stroboscopiques aussi, donc quelques mises en garde, sachez-le. Mais amenez vos mouchoirs, vraiment. Puis ça vaut la peine d'aller passer une soirée au Trident. C'est à l'affiche jusqu'au 1er avril. C'est une pièce qui est puissante, qui est venue me toucher. Puis j'ai eu de la misère à dormir après.
Ouais, puis je pense que notre heure est tout indiquée pour reparler des choses qui sont passées sous le radar presque à l'époque, parce que c'était une crise infernale pour la communauté homosexuelle. Puis on en a, tu sais, c'était vraiment invisibilisé. Mm-hmm. Puis je pense que dans notre époque, c'est très fort là, de refaire justice à ces gens-là qui ont vécu dans ces situations-là complètement invisibles, puis derrière porte close en fait. D'ailleurs, j'aimerais donner un petit mot de support et d'empathie pour toutes les personnes qui ont vécu de façon enfermée avec des réalités aussi difficiles qui sont traitées comme dans cette pièce-là.
Puis c'est pas vrai que c'est plus tabou. Il y avait en marge de la présentation de la pièce au Trident une table ronde à la Maison de la littérature. Donc ça, je trouve ça le fun comme événement de médiation culturelle où il y avait des spécialistes, des médecins, le metteur en scène qui était invité pour parler de ça, de comment on traitait les tabous en littérature. Puis ben, on en venait à la conclusion que certes, ça fait avancer les choses, mais tranquillement, puis que c'est pas encore réglé. En tout cas, on n'a pas encore, j'allais dire, détabouisé. C'est pas la bonne manière. Mais bref, qu'il reste encore des tabous. Donc, allez travailler votre empathie au Théâtre du Trident jusqu'au 1er avril avec « N'essuie jamais de larmes sans gants ». Puis, je me suis rendue également au Périscope. Tu vois, là, la semaine prochaine, je m'en vais au premier acte. Je vais toutes les faire, Julia.
Ben oui, c'est ça. T'es partout à la fois, là.
J'adore le théâtre. Et puis là, c'est comme un moment où j'y vais beaucoup.
Tu veux-tu nous parler, ben, justement, de la pièce que t'as été voir à Périscope, la pièce « Décimée ». Accent aigu ES, c'est très important.
Là, on est... Tu sais, je te disais que « Ne suis jamais de larmes sans gants » est une pièce de fiction. On pourrait croire à saveur documentaire. Là, avec « Décimé », on est à mi-chemin entre les deux. Donc, c'est du théâtre documentaire. Il y a eu énormément, énormément de recherches. Ça traite de la vague d'adoption qu'il y a eu au Québec des années 40 à 70. Il y a beaucoup, beaucoup de petits-enfants québécois qui ont été adoptés. Puis là, tu sais, on se replace dans l'époque, là. Des enfants hors mariage, il n'y a pas encore de contraception accessible, il y a toutes sortes de raisons qui justifiaient les abandons, les adoptions. Puis, ça aussi, c'était tabou. Pas le dire que tu as adopté un enfant, pas le dire que tu en as mis un à l'adoption comme enfant, pas dire que tu es adopté. Et l'auteur et la metteur en scène, Marie-Ève de la pièce, elle a appris au décès de sa grand-mère que sa maman avait été adoptée. Sa mère ne lui a jamais mentionné de toute sa vie. Et là, au décès, c'est comme si elle se sentait... Elle pouvait le dire sans blesser sa mère. Et puis, elle part à la recherche de sa mère biologique. Donc, c'est cette histoire-là qu'on suit à travers Décimé. Donc, qui est, oui, fiction, mais parce que, bon, on suit pas Marie-Ève et sa maman dans l'émission, mais qui est assez documentaire. Là. Il y a des extraits de Claire Lamarche, des témoignages de sœurs qui recevaient les bébés dans les crèches à l'époque, des témoignages de personnes adoptées qui recherchent leurs parents biologiques, des extraits avec des parents biologiques puis des parents adoptifs. Il y a quelque chose de super touchant puis qui nous ouvre les yeux sur les orphelins de Duplessis. J'avais pas idée qu'au Québec, ça avait été un phénomène avec une si grande ampleur. Donc, la pièce Décimée m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux sur quelque chose qui s'est déroulé ici au Québec sans que je le sache jamais.
Mais voilà encore une autre chose qui est derrière porte close. Puis j'aimerais spécifier également que c'est un phénomène qui a pris place aussi en France, puisque moi, mon père est une personne adoptée dans ces années-là, puis a appris son adoption seulement à l'âge de 50 ans, quand il y a différents événements qui se sont produits, là, tout ça. Son père à lui, son père adoptif était décédé là, quand il était dans la vingtaine, mais on ne lui avait jamais dit qu'il avait été adopté jusqu'à ses 50 ans, là, où il a appris ça de sa mère, malgré le fait qu'il s'en doutait, mais voilà, fait que ça me touche beaucoup, là, ce que tu dis là, parce que je reconnais un peu de mon histoire familiale là-dedans, là.
Bien, je pense que la pièce Décimée pourrait te parler beaucoup.
J'y vais.
Puis ça m'a amené à me poser des questions sur ma propre famille. Je me disais, tabarouette, j'en ai des oncles, des tantes qui sont nés dans ces années-là. Puis je me disais, tabarouette, ont-ils ou ont-elles été adoptés? Allô, la famille qui m'écoute, j'ai des questions.
Ben oui,
mais
c'est
vraiment.
Puis ce qui est particulier avec un cheminement comme ça, c'est que moi, dans une lignée comme ça, c'est que par rapport à ton historique, à ta santé, à l'histoire, les gens qui sont venus avant toi, ben c'est comme un blank. Puis d'avoir été que tu sais, mon père a appris ça seulement à 50 ans, ben ça a impacté mon histoire aussi, parce que l'histoire du grand-père, l'histoire de telle chose, ben c'était comme plus vraiment mon histoire, c'était comme l'histoire de ces gens-là, mais l'histoire de familial de mon père, de son père adoptif, on l'a jamais su puis on le saura jamais. Tu sais, fait que ça reste vraiment, c'est parti dans la tombe en fait avec eux là. Fait que c'est très particulier comme réalité. Et je salue aussi avec empathie et support toutes les personnes qui ont vécu et qui ont été adoptées ou qui ont des personnes adoptées dans leur famille de cette période-là, de la période de Duplessis.
Alors, Décimé, c'est aussi à l'affiche jusqu'au 1er avril. Donc, vraiment, si vous avez envie de voir des pièces au théâtre, la date limite, c'est le 1er avril pour toutes les pièces dont on vous a parlé. Il y a également la Nuit de la poésie qui va se dérouler ce samedi à la Maison de la littérature. C'est en train de devenir un classique. Et bien là, c'est ce samedi que vous pourrez y assister, que personne ne me dise qu'il n'y a rien à faire à Québec ce week-end. Il y a même la lutte, la NSPW à Limoilou. Quant à moi, c'est cette soirée que j'ai sorti mon initiation à la lutte a eu lieu tout récemment, puis visiblement, j'ai pogné quelque chose. Mais c'est vrai, voir des enfants debout sur leur chaise en faisant des petits fuck you, ça m'a quand même subjuguée.
Il faut que j'y aille.
Ben, c'est ça que je me suis dit aussi.
J'y vais de ce pas.
J'y retourne un samedi. Pause musicale avec Samuel, c'est le titre Là pour toi que je vous offre à Chérie. J'arrive.
Tire-toi une bûche, le temps, je nous roule la boucane. On peut fumer en silence si tu préfères. Dis-moi ce que t'as besoin de faire. Je peux casser des gueules si c'est ça que t'as besoin. Appeler les journaux ou juste te tenir la main. Je veux être là où t'as besoin que je me tienne. Jusqu'à ce que ta peur revienne.
Compter les secondes jusqu'aux vacances.
L'Azur, une pièce de Lille et de Samito sur les ondes de Schiste 94.3. C'est la sortie du jour de Lille. Merci d'avoir été à l'écoute de Chérie, j'arrive en ce beau vendredi. C'était Madame Desmeules et Julia Baumerte dans vos oreilles sur le chemin du retour. Merci beaucoup à Maxime Perron à la mise en scène de la pièce Inframonde. C'est jusqu'au 1er avril au théâtre Premier Acte. Merci également à la gang de Presque Studio, tout nouveau studio qui s'occupe de votre direction artistique et de vos photos, vidéos si vous êtes musicien, musicienne dans la ville de Québec.
Et merci à Schiste de me recevoir comme co-animatrice aussi souvent.
Ah ben ça, c'est un plaisir et on se reprendra. Restez là, c'est les architectes du son qui s'en viennent. Chérie, je t'arrive.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons, monstre ou black, hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud!
Écoute locale avec Schiste 94.3.
Droit de parole, c'est l'émission de l'Association des étudiants en droit de l'Université Laval dans laquelle on reçoit des comités de notre association étudiante, des professionnels et des membres de notre faculté afin de démystifier les divers domaines du monde juridique. Tu as toujours voulu savoir si les études en droit étaient dignes de Legally Blonde? Tu te demandes si les avocats ont vraiment une carrière comme celle que tu vois dans Suits? Tu es simplement intéressé par l'actualité et le domaine juridique? Tu es donc invité à la barre pour écouter Droit de parole tous les jeudis de 13h à 14h sur les ondes de Schiste 94.3.
C'est quoi exactement du rock? De la musique d'une autre époque? Des sons provenant d'un garage tout sale? Une alternative à la musique pop? Aucune de ces réponses et toutes ces réponses. Le rock, ça change, ça bouge, ça brasse, mais surtout, ça surprend. Si tu veux rebooter ta définition de ce genre musical, écoute Rock Ta Case. Chaque épisode, on vient décortiquer un thème avec des chansons qui méritent d'être entendues. Pour trouver des artistes différents et pertinents, écoute Rock Ta Case un mardi sur deux à 14h sur les ondes de Schiste 94.3.
Les matins sont difficiles. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Schiste a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner.